On s'entretient avec une dame qui a publié une étude hier concernant l'hébergement de longue durée pour des aînés au Québec, avec des résultats quand même qui soulèvent plusieurs questions. Elle est professeure en relations industrielles à l'Université du Québec en Outaouais et chercheuse. Il s'agit de Mme Louise Boivin. Mme Boivin, bonsoir.
Bonsoir, M. Langlois.
Madame Boivin, dans votre étude publiée hier soir, dans le fond, il y a quand même quelques constats qui s'imposent, dont celui dont on se doutait, mais je ne sais pas si on avait l'ordre de grandeur, la mainmise du privé sur l'hébergement des soins de longue durée, où il y a davantage une logique de profit qu'une logique de soins de santé. Est-ce que les chiffres que vous avez recueillis viennent valider l'opinion que vous aviez avant de faire l'étude, ou il y a des éléments de surprise pour vous là-dedans?
Ben, c'est une très bonne question. Je vous dirais que je ne savais pas. J'avais, oui, certaines hypothèses, mais effectivement, la situation est pire que celle que j'imaginais. Parce que, effectivement, le nombre, quand on regarde le nombre de places, il y a à peu près le même nombre de places, mais c'est qu'il nous manque des chiffres. On a le même nombre de places dans le secteur, dans les CHSLD publics et du côté du privé, dans les différents types d'établissements privés. Mais on n'a pas les chiffres sur les résidences privées pour aînés, là, qui ont fait l'objet d'un reportage hier en enquête, sur le nombre de places où il y a des unités de soins et de services. Donc, si on ajoute ça, c'est clair qu'on a beaucoup plus de places avec services d'assistance et soins dans le privé. Et ce qui était très particulier aussi dans les résultats, c'était de voir qu'il y a des grands groupes qui on possède une proportion importante des places dans tous les types d'établissements publics. Donc, et qui, eux, sont soumis à toute une logique de répondre, d'être rentable pour les investisseurs, pour les actionnaires, les fonds d'investissement. Et donc, ça soulève vraiment cette question de la compatibilité entre la logique de rentabilité du profit et la logique des soins qui est pas, où on parle pas d'un marché, d'une business, on parle de soins avec toute la complexité dans une pandémie.
Il y en a qui sont devenus très riches à gérer des CPE et des résidences pour personnes âgées, autant pour prendre soin de notre enfance que de prendre soin des personnes âgées. Je ne sais pas si ça s'est déployé de la même façon. Est-ce qu'il y a des choses qui suscitent une certaine inquiétude de votre part une fois que vous avez fait ce constat?
Oui, en fait, effectivement, là, il y a un mouvement, là, quand on regarde dans le contexte historique, il y a un mouvement de privatisation des services publics, des services sociaux de type, comme vous dites, garderie, monter des garderies privées, des écoles privées, des établissements privés pour aînés. Ça, c'est clair. Sauf que là, ce qu'on voit, c'est l'ampleur et aussi le fait qu'il y a un sous-financement du côté public, des CHSLD pour avoir des services, des établissements à dimension humaine, etc., des mesures de protection, etc., des salaires adéquats. Bon. Le privé a pris toute une expansion, sauf que le modèle d'affaires, ce qui est inquiétant, c'est que le modèle d'affaires du privé, c'est un modèle d'affaires qui est basé sur la rentabilité des investissements immobiliers. Ce sont des grands investisseurs immobiliers là, qui contrôlent le marché. Donc, eux, ils veulent rentabiliser leur capital immobilier. Le service, c'est un peu périphérique, là. Donc c'est comme si c'est d'abord des investisseurs immobiliers. Donc, ce qui m'inquiète, c'est vraiment que c'est entre leurs mains qu'il y a un nombre de personnes importantes qui reçoivent des soins, des services. Donc, en temps de pandémie, ça soulève des questions parce que leur modèle d'affaires est basé sur une main-d'œuvre peu coûteuse.
Et ils peuvent faire des profits sur deux tableaux, c'est-à-dire de par les propriétés immobilières et de par les tarifs, évidemment, qui sont chargés à travers les services. J'imagine qu'ils ne font pas ça à perte. Mais je m'excuse
de vous... Dans certains cas.
Oui? Ah oui?
Oui, parce qu'il y a les CHSLD privés ou les ressources intermédiaires. Il y a beaucoup de places achetées aussi. Donc, dans beaucoup de cas, l'État finance les services. Et ce qui est inquiétant, c'est que là, ces grands groupes demandent à l'État de financer en plus les augmentations de salaire. Donc, les fonds publics servent à un modèle d'affaires basé sur le profit où les soins, les services sont pas toujours au rendez-vous.
Ce qui est troublant aussi dans le texte publié dans quasiment une enquête, mais c'est fort intéressant, les textes de la Presse Plus ce matin là-dessus, c'est qu'on y constate que donc 41% des 326 décès liés à la COVID chez les personnes âgées sont survenus à domicile, 34% en CHSLD, donc moins de décès en CHSLD, ce dont on pourrait se réjouir. Sauf que, quelle lecture faites-vous d'autant de morts à domicile? Ces gens-là ont-ils obtenu des soins? Écopent-ils d'une situation qui n'est pas saine dans les centres d'hébergement longue durée?
Ben, là, ce qu'un reportage montre aussi, c'est que ce sont toujours des personnes de 70 ans et plus qui sont plus touchées, là, qui décèdent. Là, alors, ce que ça soulève aussi, c'est que, bon, là, il y a moins de places dans les CHSLD en ce moment, donc sous financement avec la gestion de la pandémie, etc. Donc, on a des gens à la maison qui décèdent. Les gens n'ont pas suffisamment de services de soutien à domicile, on le dit depuis longtemps au Québec. Ça coûte beaucoup moins cher d'offrir ces services-là que de construire de l'hébergement. Et donc, il y a vraiment il y a eu un laisser-aller de la part de l'État, de la collectivité en quelque sorte, qui a permis au marché de se développer, au marché de l'hébergement de se développer. Puis là, je suis inquiète de voir ces aînés à domicile, isolés, souvent avec un manque de services de soutien à domicile, qui se retrouvent avec plus de risques de décéder. Alors, je pense que même si c'est la crise, on doit absolument envisager une réflexion approfondie sur ce que j'appelle la démarchandisation, c'est-à-dire de sortir du marché, de la quête de profit, les soins. Les soins et les services à nos aînés, c'est pas une occasion d'affaires. C'est un besoin social, c'est un droit qui devrait pas être marchandisé.
Ce qui est particulier, ça nous ramène au moment où on a décidé de commencer à privatiser certains secteurs de nos services en pensant, d'un point de vue gouvernemental, j'imagine, à l'époque, réaliser des économies, en pensant aux contribuables auxquels on promettait probablement que ça allait influer de façon positive sur ces impôts, en ce sens que ça allait nous coûter moins cher si le privé se mêlait d'un paquet de secteurs d'activité comme celui de l'hébergement des soins longue durée. Je veux dire, est-ce qu'on peut faire un bilan clair de ce que ça donne? Je veux dire, est-ce qu'il y a du bon de la présence du privé ou c'est vraiment tout le modèle qui est à remettre en question, puis tout rapatrier sous le chapeau de l'État, ça va coûter une beurrée aussi aux contribuables. Est-ce qu'il y a une solution meilleure qu'une autre dans tout ça?
Non, en fait, la première chose, pour qu'on ait une réflexion éclairée, il faut qu'on ait l'information et les données. Nous, les données sont très difficilement accessibles pour comprendre, pour avoir un portrait complet. On a fait un portrait préliminaire. Il faut qu'on ait les données sur le financement. Si on veut savoir qu'est-ce qui est le plus économique, là, oui, socialement, en tenant compte des droits, hein, pas juste de l'argent, mais du droit à la santé puis de la dignité humaine, peut-être.
Bien sûr.
Ben, il faudrait quand même qu'on sache quel est le financement qui est octroyé à ces institutions privées en termes de financement, en termes de déduction fiscale, en termes de soutien d'achat de places. Le public achète des places dans le privé parce qu'on ne construit pas, il n'y a pas assez de places dans le public. Il faut qu'on ait des données, on les identifie dans notre rapport. Et en plus, il faut qu'on ait les états financiers des entreprises qui sont subventionnées, qui sont où on achète des places, où on subventionne les salaires. Ces établissements publics, privés, pardon, on doit connaître leurs états financiers. On doit avoir une série de données pour faire un débat éclairé. Et ensuite de ça, la petite entreprise familiale, là, c'est pas là le problème. C'est là où on va dégager des grands profits pour les investisseurs, les actionnaires, etc. Il y a même certaines entreprises qui sont à la bourse. Il y a des entreprises qui sont des filiales d'une multinationale française qui s'appelle Groupe Santé Sénat. Donc, ça soulève toute la question de la sortie de certains secteurs de notre économie du marché, ou en tout cas de mettre des limites pour que la petite entreprise familiale ou les petites entreprises ou quelqu'un qui possède deux, trois entreprises s'appuie avec des normes nationales et un régime national de conditions de travail et d'emploi, un régime sectoriel, comme il y en a dans le secteur de la construction, un régime sectoriel, comment ça dans la construction d'un régime sectoriel sur les conditions de travail et d'emploi, puis dans le secteur de l'hébergement ou du soutien à domicile, on n'est pas capable d'avoir un régime pour garantir des conditions adéquates pour un service de qualité. Alors, on a des questions à se poser comme société, il faut s'asseoir, puis il faut se les poser, et on peut pas passer à côté, là, les aînés nous appelle à discuter, réfléchir et changer les choses.
Et à agir également, parce que si on réfléchit trop longtemps, remarquez qu'il faut prendre le temps de réfléchir comme il faut. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous allez aller là dans votre enquête, je ne serais pas surpris que plusieurs de ces gros groupes soient de généreux donateurs à des partis politiques, comme ça a été le cas dans certains CPE, avait-on noté dans diverses enquêtes journalistiques. Et juste en quelques secondes, parce que le temps me bouscule, mais qui vous prive d'avoir accès aux données qui permettraient d'avoir un portrait complet de la situation de l'hébergement longue durée pour les personnes âgées. En quelques secondes, Mme Boivin.
C'est la responsabilité de l'État de fournir des données. Il y a un registre des résidences pour aînés. Il y a des données qui... Les fichiers ne sont plus accessibles. Ils l'étaient auparavant. Le gouvernement parle d'un gouvernement transparent, d'un gouvernement des données, d'un gouvernement ouvert, etc. Il faut que le gouvernement mette plus de règles obligeant les établissements privés à sortir des chiffres des états financiers. Et le gouvernement lui-même peut nous fournir des données sur ses achats de places.
D'accord.
Et notamment sur le recours aux agences de placement aussi, qui est très problématique. Donc, on a de quoi faire et je pense qu'on est capable comme société de permettre que nos aînés vivent dans la dignité et terminent leur vie dans la dignité.
Bien, souhaitons-le, souhaitons que ça bouge et en espérant que les résultats de votre étude contribueront à faire avancer les choses. Madame Boivin, merci beaucoup d'avoir exposé sommairement quelques-unes des conclusions que vous avez réalisées. Merci, bonne chance pour la suite, évidemment.
Merci beaucoup à vous.
Au revoir. Et les professeurs en relations industrielles et nous exposaient les résultats d'une recherche sur la façon dont les personnes âgées sont hébergées dans les centres de longue durée. Juste pour ajouter des chiffres tels qu'exposés dans la presse ce matin, 32 061 personnes âgées qui seraient hébergées dans des établissements privés et 31 223 dans des établissements publics.